Nous avons besoin d'être guidés. Certes, il y a un seul pasteur, le Christ, mais nous avons besoin de guides, de maîtres et maîtresses de vie spirituelle. Et parmi ceux-là, il y a Saint Benoît, 5e, 6e siècle de notre ère, maître de la vie spirituelle, grand fondateur de la vie monastique, et maître également du combat spirituel. Beaucoup d'entre vous, moi en tout cas, je porte ce qu'on appelle la croix ou la médaille de Saint Benoît, pour pouvoir demander son aide, son intercession. Sur cette médaille ou sur cette croix, il y a un certain nombre d'initiales qui disent de façon très claire ce qui sont un certain nombre de points de repère. D'abord, avant tout, que la croix du Seigneur soit ma lumière, que l'amour du Seigneur me guide, ou encore que le diable ne soit pas mon patron. Et tout autour, sur un pourtour, l'équivalent, toujours sous forme d'initiale du texte latin, « Va-t'en, Satan ! Garde-les pour toi tes mauvais conseils, et bois-les toi-même tes poisons !» Et ça fait une bonne transition avec ce que je vous disais dimanche dernier à propos de la gourmandise, comme premier dans la traditionnellement des péchés capitaux. Je reprends les enseignements des catéchèses du pape François, et j'ai repris pour ce carême, effectivement, tous ces dangers qui nous menacent, tout ce qui fait l'objet du combat spirituel. Et les pères de l'Église disaient de la gourmandise qu'elle est, je cite, « la mère de la luxure ». Alors le mot a un peu vieilli. Qu'est-ce que c'est la luxure? C'est la débauche, une sensualité débridée, désordonnée. On l'appelle pudiquement l'impureté. Et de fait, elle comprend toujours une impureté du regard. Ça commence par la question du regard. Et la prière d'ouverture de cette messe disait, au moins de façon très claire dans son ancienne traduction, elle demandait au Seigneur, « Seigneur, donne-nous de trouver dans ta parole les vivres, la nourriture dont nous avons besoin pour notre foi, dans ta parole, et nous aurons le regard assez pur pour contempler ta gloire. » Et nous aurons le regard assez pur, non seulement pour contempler ta gloire, mais assez pur dans nos relations les uns avec les autres, pour ne pas considérer le corps humain en particulier comme une chose, comme un objet en particulier, un objet de plaisir à conquérir ou à consommer. Saint Benoît est né en Ombrie, à Nurcy très exactement. C'est pas loin de la ville de Saint-Trita, Cachia, mais ça, Saint-Trita, c'est un millénaire plus tard. C'est pas loin non plus d'Assise. C'est à une centaine de kilomètres au nord de Rome. Et c'est à Rome qu'il est envoyé quand il a environ 15 ans pour faire ses études. On est en 495. Et il arrive à Rome, et là, stupeur. Stupeur et scandale, il est même scandalisé, effaré par l'ambiance, par la débauche, pour lui dire en un mot. L'ambiance tout à fait dissolue qui y régnait. C'était pas Rome, c'est Babylone. Il avait, par grâce, par son éducation bien sûr, par son caractère, mais par grâce, cette candeur dont parle littéralement l'Évangile à propos des vêtements de Jésus quand il est transfiguré. Le mot latin, très exactement, ce n'est pas une blancheur, c'est une candeur. Ses vêtements devinrent d'une candeur, d'une blancheur, d'une pureté, telle que personne ne peut en avoir sur terre. Saint Benoît avait par grâce le cœur pur et le regard pur. Alors il s'en va. Il quitte Rome, il va 70 km, 3 jours de marche à l'est, au-dessus de Subiaco, en flanc de montagne, où pendant 3 ans, il vit dans la prière et la solitude. Et il fait cette expérience, justement, seul, dans la prière, dans la solitude, cette expérience que décrit la lettre de Saint Jacques. Chacun est tenté par sa propre convoitise. Nous ne sommes pas égaux devant les tentations. Nous ne vivons pas les mêmes. Chacun est tenté par sa propre convoitise, évidemment sous l'action du tentateur, évidemment sous l'action du diable, qui vient harceler Benoît avec le souvenir d'une très belle femme qu'il avait croisée. Vraiment, c'est un souvenir qui revient de façon quasi obsessionnelle, et son biographe, qui n'est pas n'importe quel biographe, qui est le pape Saint Grégoire le Grand, dit que l'esprit malin lui ramenait sans cesse cette vision devant les yeux de l'âme, à tel point que, presque vaincu par la volupté, il voulait tout laisser tomber. Presque vaincu par la volupté. Combien d'hommes et de femmes ont renié leur engagement, ont quitté, ont trahi leur conjoint, vaincus par la volupté. Vaincus par la volupté, ne voyant que leur plaisir et pas du tout la souffrance infinie que leur trahison allait provoquer. Et l'histoire dit que Benoît, en désespoir de cause, s'est mis tout nu et il s'est roulé dans un buisson de ronces et d'épines, d'orties. Vous savez que dans les cas bénins, une douche froide peut suffire. Mais là, ce n'était pas le cas, c'était vraiment terrible, c'était obsessionnel. Vous pouvez imaginer, tout nu dans les ronces et les orties, et l'histoire dit qu'il en est sorti définitivement guéri. J'ai célébré il n'y a pas longtemps les obsèques d'une femme qui avait été très belle, une splendeur, mais pas une splendeur immobile. Une femme explosive, fantasque, qui avait du mal à vivre avec elle-même, avec sa propre beauté, avec toutes ses qualités, à tel point qu'elle faisait régulièrement des tentatives de suicide. Elle ne pouvait pas presque supporter sa beauté. Jusqu'à ce que, au cours d'une de ses tentatives, elle fasse une expérience de mort imminente. On en entend souvent parler. Mais elle n'a pas du tout fait ce dont on parle le plus souvent, c'est-à-dire une expérience d'une sorte de couloir de lumière, quelque chose de paisible. Ça, c'est ce qu'on raconte dans le meilleur des cas. Mais ce n'est pas du tout dans tous les cas comme ça. L'expérience qu'elle a faite, c'était exactement le contraire. Ça a été une expérience terrible de ténèbres, à la limite de l'enfer, dont elle était sortie définitivement guérie, elle n'a jamais recommencé. Elle est morte à 93 ans. Dans la catéchèse que le pape a donnée sur la luxure, c'était le 17 janvier, il a repris le même terme qu'il avait employé lors de sa première catéchèse sur la gourmandise, un terme très explicite, de voracité. Vorace. Autant on le comprend pour la gourmandise, pour le glouton, mais également dans une forme de débauche, une voracité à l'égard de tous les plaisirs de la chair. Pour dire que ce sont, d'une certaine façon, deux mêmes pentes glissantes. De la gourmandise à l'égard des bonnes choses, de la nourriture et de ce qu'on pourrait appeler l'hédonisme. L'hédonisme pour le plaisir sexuel, le plaisir de la chair, qui devient un vice dès lors qu'il tend à chosifier le corps, à l'instrumentaliser. Quand on fait systématiquement de la sexualité un jeu, au mépris de sa réalité sacrée. Et j'insiste sur ce terme. Si la vie est sacrée, et nous sommes ici parce que nous croyons que la vie est sacrée, un don de Dieu, eh bien le corps, notre corps l'est aussi sacré. Et cette scène de la transfiguration le révèle de façon magnifique. Jésus est transfiguré parce que son corps est sacré. Et nous sommes tous appelés à vivre cela, cette transfiguration, pour entrer dans la vie de Dieu, pour entrer dans la vie éternelle. Ce sera la transfiguration de notre résurrection. Et voyez comment le Christ associe explicitement et très clairement les deux lorsqu'il ordonne à ses disciples de ne pas parler de cette transfiguration avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. La sexualité n'est pas un jeu, c'est un don de Dieu. Et elle a ceci de particulier parmi tous les plaisirs que le Seigneur nous donne, parmi tous les plaisirs terrestres, qu'elle n'est pas vitale, n'est pas indispensable comme la nourriture, comme le sommeil. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'elle est source de vie. Que la sexualité peut donner la vie. Et le pape insistait à juste titre sur la puissance, il disait, la voix puissante de la sexualité qui met en jeu tous les sens, qui habite à la fois le corps et la psyché. Et il disait, mais c'est très beau, sauf que si elle n'est pas disciplinée, avec patience, si elle n'est pas inscrite dans une relation, dans une histoire, elle peut être dévastatrice. Elle peut détruire. Voilà pourquoi il faut l'éduquer. Et voilà pourquoi surtout il faut protéger. Protéger les petits, protéger les enfants. Le plaisir sexuel, comme tous les plaisirs, porte en lui-même le danger de se transformer en dépendance, de faire perdre à la personne sa liberté, qui fait qu'elle se replie sur elle-même. Un repli sur soi, il faut dire les choses clairement, l'hédonisme, c'est un égoïsme. L'hédonisme est un égoïsme. Et le contraire du repli sur soi, du repliement, c'est la simplicité. La première qualité de Dieu. C'est ça ce que veut dire simple. Dieu sans un pli. Dieu absolument simple. De l'amour authentique, c'est l'objectif ultime de notre vie, dans notre relation à Dieu, comme dans notre relation les uns aux autres. Et je vous mets au défi de trouver une scène plus simple et plus pure que la transfiguration. Où Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, se manifeste aux disciples de Jésus, en présence de ces deux personnes références de l'histoire du salut, Moïse et Élie, faisant dire à Pierre, nous sommes comblés. C'est bon. Nous sommes comblés. C'est ce qu'on a entendu, c'est la promesse de Dieu à Abraham. C'est ça la réalité du plaisir. Nous sommes comblés. C'est bon, dit-il, c'est bon que nous soyons là, avec toi et avec eux. Ils sont comblés alors même que le meilleur est à venir. Et nous sommes comblés chaque fois que nous sommes aimés pour nous-mêmes, en vérité. Et que nous ne sommes pas traités comme des objets, comme des choses. Le corps humain n'est pas une chose. La sexualité n'est pas un jeu, elle est appelée à être une liturgie. Une liturgie, c'est quoi ? C'est une action sacrée. Béni par Dieu, portée par l'amour, ouverte à la vie, nécessitant un minimum de rites ou de rituels, et laissant une place prépondérante à l'écoute. À l'écoute. Pas de respect, pas d'amour sans écoute. Ah, si la sexualité pouvait être une liturgie.